Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blau au micro. Oui, c'est jeudi. Alors, quand je dis jeudi à Escale 16-17, ça veut dire que Myriam Larache, qui était avec moi le mardi pour parler des séries télé, des télé, et de retour pour nous parler cette fois-ci du sport, tous les sports confondus, va nous parler du mondial du rugby féminin et puis au football, soccer, football pour les uns, soccer pour les autres. MLSF Montréal et différents trophées au Ballon d'Or 2022. Et puis pour le deuxième titre pour Félix Auger Aliassime au tennis FAA. Félix Auger Aliassime. Bon, c'est mieux de prendre le FAA, ça va plus vite que Félix Auger Aliassime. Et puis bon, à 16h15, je vais recevoir Maître Alexandra Paquette, qui est la présidente du Jeune Barreau de Montréal, JBM. Elle va nous parler de la 39e édition de la clinique juridique téléphonique. Et à 16h30, je reçois Clément Turgeon, qui est le directeur général et artistique de Le Festif de Baie-Saint-Paul. C'est pour nous parler de quoi? Le Festif à l'école, dans 50 écoles, avec 15 artistes différents qui vont parcourir ces écoles de maintenant octobre 2022 à avril, jusqu'en avril 2023. Ah ouais! C'est resté pour vouloir en savoir plus, c'est à 16h30. Bonjour Myriam.
Bon après-midi, Jean. Oui. Et à toute l'équipe. Il y en a qui vont se reconnaître.
Ouais. Oui.
Alors, Fulgence, on va parler sport et plusieurs sports, en effet, comme tu l'as bien précisé. Oui. On va commencer avec la Coupe du Monde de rugby féminin. Tu sais qu'on en avait parlé la semaine dernière.
Le
tournoi a commencé.
Où elles en sont, nos filles?
C'est ça. Oui. Exact. C'est dimanche, les Canadiennes ont empoché une victoire face aux Italiennes et ont entériné, figure-toi, une place en quart de finale.
Elles n'arrêtent pas de me surprendre, nos filles.
Oh oui. Elles ont marqué 22 points d'affilée et j'ai vu le match, Fulgence.
Oui.
Ils jouaient à 7h du matin. Alors, j'ai pu reculer pour aller le voir. Oui. Elles sont puissantes et fortes, Fulgence, c'est incroyable. Alors, soulignons que tout aussi, c'était elle aussi, l'autre fois qui avait marqué beaucoup de points, qu'on voit habituellement à l'arrière en défense, eh bien, il est allé de 5 essais lors des deux premiers matchs de ce tournoi. Troisième tête de série quand même, le Canada, hein, c'est pas n'importe qui.
Je vais te dire une chose, Myriam, je ne savais pas que le rugby était aussi développé ici, parce que ici, c'est beaucoup
exact.
Plus le football
plus,
américain,
pas.
Je ne savais pas que le rugby était aussi développé en Amérique du Nord, et au Canada surtout, ouais.
Mais je pense que c'est pas beaucoup au Québec, mais dans les autres provinces, oui, c'est vraiment beaucoup développé. Hein.
Ok, d'accord.
Et c'est pour ça peut-être qu'on n'en entend pas beaucoup parler au Québec,
mais ailleurs, je
pense qu'elles aiment ça.
Okay.
Alors, parce qu'il est quand même, comme je disais, le pays troisième tête de série.
Oui.
Il se retrouve maintenant donc en quart de finale. Il est en tête du groupe B avec 10 points, figure-toi. L'équipe devance l'Italie qui est plus favorite. Et les États-Unis avec chacun 5 points. Le Japon ferme la marche. Avec une victoire contre les États-Unis samedi prochain, car samedi c'est le prochain match. Hein. Alors c'est à RDS, il faut se lever à 7h ou programmer-le. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant à voir.
Oui.
Le Canada s'assurerait s'il gagne les États-Unis.
Je compte sur toi, ou bien je vais aller chercher le résumé sur YouTube, mais je compte sur toi pour avoir les bonnes infos.
Exact. Le Canada s'assurerait donc du premier rang de son groupe s'il gagne les États-Unis et il aura donc un quart de finale bien plus favorable, comme toujours.
Génial.
Alors les Canadiennes.
On leur souhaite,
pourrait aussi terminer première grâce à une défaite bonnie accordée par un revers et un quart de 7 points au moins.
Mmh.
Alors l'équipe favorite de ce mondial de rugby féminin est bien le pays hôte, faut pas l'oublier, la Nouvelle-Zélande, les Black Ferns, sont championnes en titre, c'est elles qui ont gagné la dernière coupe. Elles se sont également qualifiées pour les quarts de finale, elles sont aussi premières de leur groupe A avec 10 points, donc tout ça est assuré, elles vont jouer contre l'Écosse, elles, samedi. Donc tout ça à suivre ce week-end. Il y a un match à peu près par semaine de chaque pays.
Ah bon, d'accord. Okay.
Oui. Mmh. Alors maintenant, on passe en MLS. Écoute, même Montréal est dans les séries, on l'a dit, on en a parlé. Alors une victoire de 2-0 pour l'équipe montréalaise contre Orlando. Et voilà, le CF, lui aussi, a confirmé avec sa victoire une demi-finale de la circonférence de l'Est. Ismaël Koné a brisé la glace avec un premier but à la 68e minute. Écoute, le stade Saputo a enfin respiré. Et au temps supplémentaire en fin de match, l'Américain Jorge Mihailovic a confirmé la victoire avec un deuxième but. Alors c'est une douce revanche pour le CF de Montréal qui avait été éliminé, figure-toi, l'an dernier dans les séries par Orlando City.
Ah,
voilà.
Il fallait qu'il gagne ce match-là, cette fois-ci.
Exact. Oh. Voilà. Alors avec cette victoire, une 21e en 2022, le 11 de Montréal continue dans sa lancée d'embellir sa saison. Un bon résultat pour le troisième rang au classement général.
Oui.
Fantastique. Alors, la demi-finale donc et prochain défi aura lieu ce dimanche à 13h contre le New York City. toujours au stade Saputo. Écoute, avec ce, à ce qui paraît, il va faire beau ce week-end. Hein,
paraît-il, c'est ce que j'ai entendu ce matin
à Météo Média.
Voilà.
À ce qui paraît, du 18 degrés. Donc, ceux qui aiment ça, aller au soleil.
Même dans la, on va aller dans la vingtaine.
Exact.
18,
alors,
20,
13 heures,
18, voilà,
dimanche,
c'est
fantastique.
Ça.
Allez-y. Il y a eu aussi, figure-toi, des trophées donnés par la MLS. Ils ont nommé des gens, en fait. Les trophées n'ont pas encore été distribués, mais ils les ont nommés.
Oui.
Alors, elle a révélé sa liste de finalistes. Wilfried Nancy, notre coach, donc entraîneur-coach du CF Montréal, est nommé comme meilleur entraîneur de l'année. Et en lice aussi, on a Jim Curtin de l'Union de Philadelphie et Steve Cerundolo de LAFC. Alors, il a de la concurrence un petit peu, mais je pense qu'il a peut-être des chances. Hein.
Oui.
L'attaquant Kay Camara.
Attends, tu me fais penser à cet entraîneur du CF Montréal. Il est parti de rien. Il est arrivé, l'équipe n'était pas vraiment en forme. Il a mis sa tactique en place et puis bon, ben voilà le résultat aujourd'hui, quoi.
Et il est patient, Fulgence. Il est patient. C'est pas quelqu'un qui, c'est-à-dire qu'il voit loin, il est visionnaire. Il se dit, je vais faire ça et on va finir par y arriver. Alors, il y arrive. Il faut dire qu'il a une équipe exceptionnelle. Il a parlé de son équipe avec amour, tendresse et admiration. Qu'est-ce qu'on veut de plus d'un coach, hein?
Ouais. Et puis, il est tombé, il faut le dire, il est tombé sur des patrons, c'est-à-dire les responsables de l'équipe aussi, qui n'attendent pas des résultats dès l'arrivée du nouvel entraîneur. Mm-hmm. Tout de suite, ils lui ont fait confiance. Il avait besoin du temps pour former son équipe, pour voir comment les joueurs peuvent, à quel poste ils peuvent évoluer ensemble. Voilà les résultats aujourd'hui, ça se paye.
Les résultats, on est une des meilleures équipes de la MLS, hein?
Oui.
Alors, l'attaquant Kay Camara, bien sûr, lui qui est arrivé en janvier et qui fait des prouesses dans cette équipe, et quant à lui, en liste pour deux honneurs, figure-toi. Tout d'abord pour le trophée du meilleur retour de la Ligue dans la Ligue.
Oui.
Avec ses 9 buts et 6 passes, car l'année dernière, il était outre-mer, il était prêté dans une autre saison.
Oui.
Et avec lui, il y a Jérémy Ebossé et Gonzalo Higuaín. Bon, Higuaín, l'Inter Miami. Alors, il est aussi en lice avec lui. Et le Sierra Leone est aussi retenu pour son travail humanitaire grâce à sa fondation Heart Shaped Hands. Alors,
dans son pays d'origine.
Et ouais, il aura deux chances donc d'avoir un prix.
Alors d'avoir un trophée, quoi.
Mmh. Voilà, on est bien représenté, n'est-ce pas?
Ouais.
Alors, maintenant, je passe au tennis avec Félix Auger Aliassime FAA. Je ne savais pas qu'on l'appelait FAA. Maintenant, on donne des petits noms comme ça à tout le monde.
Oui.
Alors, première tête de série au tournoi de Florence, Firenze. Il a remporté son second titre dimanche. En finale, notre Québécois a défié le 75e mondial, l'Américain J.J. Wolf, en deux manches, 6-4, c'est bien assuré. En conférence de presse, il a commenté « Je suis très heureux de cette victoire. J'ai probablement joué mon meilleur tennis de la semaine aujourd'hui.
Ah bon ?
Gagner ne se démode jamais. C'est toujours comme si c'était la première fois. »
Oui.
Alors, c'est fantastique. Il a encore cette envie. Les jeunes, faut pas l'oublier, il a 22 ans.
Oui, Et J.J. qui l'a battu, qui a été battu par Félix, par FAA, et il a 23 ans. Un an de plus que Félix.
Voilà.
Oui, un an de plus que Félix.
Ouais.
Oui. Mais c'est vrai, deux titres à 22 ans, c'est déjà pas mal.
C'est pas mal. Mmh. C'est pas mal. Puis il est dans le top 10 à partir de lundi, alors c'est formidable.
Oui.
Alors il pourra justement, avec cette victoire, peut-être obtenir une participation finale de l'ATP qui regroupe les 8 meilleurs joueurs de l'année.
Oui, je pense bien qu'ils vont l'inviter.
C'est possible.
Oui.
S'il y a des désistements, s'il y en a qui viennent pas, on commence à remonter la liste des 8 meilleurs joueurs de l'année.
C'est ça.
Alors, qui se passe du 13 au 20 novembre à Turin.
Ouais.
Alors, on surveillera ça, c'est le mois prochain.
Mmh.
Maintenant, on va passer de ce... Ça, on a fait des blablas sur Internet. Hein. Le Ballon d'Or 2022.
Non. Trop de polémiques, je sais pas pourquoi, trop d'histoires. En France, ils commencent à me taper un peu sur les nerfs. Je suis désolé de dire ça. Non, parce que ils ont une manière de critiquer les joueurs ou bien le staff d'une manière. Ils sont tellement exigeants, je sais pas, mais je te laisse aller. Ouais.
Oui, on va parler donc de ce fameux Ballon d'Or qui a été nommé. Tu as mis le suspense mardi, mais tout le monde le savait. C'était Karim Benzema, roi du monde, un rêve qui revient de loin, disons.
C'est son année.
On ne peut pas lui enlever.
Ouais.
Il succède 24 ans plus tard à Zinedine Zidane, qui lui remet lui-même le trophée et devient donc le 5e joueur français de l'histoire à remporter ce Ballon d'Or.
Zidane qui était son idole.
Alors, et qui était son entraîneur au Real Madrid.
C'est ça.
Alors, KB9, puisqu'on est dans les surnoms de FAA, ben lui c'est KB9 qu'on appelle.
Oui, alors, c'est comme Cricri.
C'est comme CR7 aussi,
voilà.
Cristiano Ronaldo. Alors je ne sais pas pourquoi c'est la mode là,
ouais.
KB9. on croirait une marque de voiture ou de moto, mais en tout cas.
Ouais.
Cinquième Ligue des Champions. Alors, il a quand même la cinquième Ligue des Champions. À cela s'ajoute la Liga et la Supercoupe d'Espagne pour un triplé assez rare, faut le dire. Une saison où il est apparu au sommet de sa maturité, Fulgence. Parce que quand même, ce gars-là, à 17 ans, il a sauté sur le terrain. On était en 2003, hein. Alors, il a dit donc dans ses remerciements, son discours de remerciement, j'ai un modèle, c'est Zizou. Et il a aussi parlé de Ronaldo, le Brésilien. Hein,
ah ouais, oh, ça, c'était, ouais, oui, c'était un de mes gars à l'époque, oui, oui, Ronaldo.
Exact. Il était assis en avant d'ailleurs.
Oui,
et
oui,
il m'a
oui.
toujours donné beaucoup de confiance, Zizou, dans ces moments difficiles. C'est lui qui me disait de m'accrocher, de garder ce rêve en tête. Et ce ballon d'or, eh ben, je l'ai aujourd'hui, et c'est celui du peuple.
Ah oui, voilà, alors, ça m'a beaucoup touché quand il a dit,
oui,
ce trophée,
oui, oui,
s'il n'est pas moi, c'est le trophée du
peuple. Pour, du peuple.
Et puis bon, ça dit que l'année là, ça dit que ce qu'il a fait là, moi, c'était, pour moi, c'était Karim Benzema, tout feu, tout flamme, quoi. C'est,
bien sûr, ben, il y a personne voilà. qui est arrivé à son niveau cette année, surtout dans sa constance aussi, Fulgence.
Oui.
Il a été constant tout au long de l'année.
Même
il
hier.
A participé.
Même hier, ce qu'il a prouvé hier, encore, oui. voilà.
Encore.
C'est ça, tu te dis, mais il n'arrête pas. Là, il va enchaîner le ballon d'or, maintenant, comme Messi.
Exactement. Alors, le joueur a une longévité exceptionnelle, comme je vous l'ai dit. Hein, en 2003, il a sauté sur un terrain, il avait 17 ans. Alors, il a bientôt 35 ans et il devient avec ça le plus vieux vainqueur du ballon d'or
oui.
depuis 70 ans.
Oui.
Parce qu'on le donne souvent des plus jeunes. Ben, Messi, c'était à 33 ans qu'il a eu. Lui, il a à presque 35. Alors voilà, on le souligne. 16 ans après ses débuts, c'est enfin la consécration, ce qui rassure plusieurs malgré quelques égarements en chemin. Je ne vais pas trop m'y arrêter. Un parcours difficile, comme il l'a plusieurs fois répété dans son discours. Hein. Ça a été difficile. Il l'a dit une fois, deux fois, trois fois. Et ses parents l'ont bien entendu.
Il avait été écarté de l'équipe de France plus de 6 ans, 7 ans.
Une brouille en 2016 avec Didier Deschamps. Il y a eu l'affaire Valbuena, alors on va pas rentrer dans tout
on
ça.
On parle de ballon d'or maintenant. Là.
Voilà, mais comme pressenti donc depuis des mois, et on l'a dit ensemble, Benzema a remporté le ballon d'or avec une écrasante majorité de votes, un vainqueur qui a fait l'unanimité.
Mm-hmm.
Il faut rappeler individuellement, tout à l'heure on a dit tout ce qu'il a gagné en équipe, mais individuellement, regarde, il a été meilleur buteur, meilleur joueur en Ligue des Champions et en Liga, et pour couronner le tout, le titre de joueur de l'année de l'UEFA, rappelons-le, il l'a été cette année. Donc tout cela est bien mérité. Bravo Karim.
Ouais.
Allez, KB9. Yes. Alors, chez les dames maintenant, sachez que la Barcelonaise Alexia Putellas a remporté son deuxième ballon d'or.
Myriam,
oui.
Tu as une minute.
C'est ça, je finis.
Ok, d'accord.
Mais il ne faut plus m'interrompre.
Mais ouais, je te laisse.
Tu manges mes minutes.
Je te laisse partir. Je te laisse partir. Allez, vas-y.
Allez, alors, qui a remporté son deuxième ballon d'or, récompensé pour son 7e titre de championne d'Espagne et sa participation, elle a tous les triomphes en Liga du Barça féminin, et ce depuis 2012 quand même. Les gens rouspétaient aussi pour ce classement féminin. Hein. Beaucoup de gens de l'OL, l'Olympique Lyonnais, où il y avait de très bonnes joueuses qui sont retrouvées 6e, 7e, 8e dans le classement.
On ne peut pas aider les insatisfaits. On ne peut pas les aider.
Oui, oui.
Ils sont satisfaits.
Trophée. Alors, trophée du meilleur gardien, Thibaut Courtois, qui a chialé contre Benzema, même si c'est son goaler au Real Madrid, en disant qu'un goaler ne pourra jamais avoir le ballon d'or. Alors, il a respecté malgré son prix. Trophée Gerd Müller pour meilleur attaquant pour Robert Lewandowski, le Polonais. Ça, on s'y attendait aussi. Meilleur buteur de la Bundesliga et au Bayern Munich. 14 buts sous ses nouvelles couleurs au FC Barcelone déjà. Alors, meilleur club de l'année, Manchester City. Voilà, ça, c'est pas une surprise non plus.
Non.
Tout le monde s'y attendait.
Oui.
Donc, je finis sur ça, Fulgence.
Merci beaucoup, Myriam.
Et je vous dis à la semaine prochaine.
Belle fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci.
Bye.
Bye. Ouais, merci beaucoup Myriam d'être venue nous parler de ces, donner toutes les informations nécessaires sur le sport, tout sport confondu. Maintenant, c'est la présidente du jeune barreau de Montréal, JBM, maître Alexandra Paquette, qui va nous parler de la 39e édition de la clinique juridique téléphonique. C'est le 22 et le 23 octobre de 9h à 16h. C'est bien ça, si je vais me corriger si je me suis trompé d'heure et de date.
Bonjour.
Bonjour maître.
Bonjour. Non, vous aviez raison, c'est effectivement le 22 et 23 octobre prochain entre 9h et 16h.
Et je dis merci de personnellement, je vous dis merci vous et vos collègues. C'est de prendre deux journées comme ça, une fin de semaine, c'est des jours de repos, hein, au fait, de prendre une fin de semaine pour répondre au coup de fil de tous les Québécois, répondre à toutes les questions, et puis ça fait, c'est la 39e édition, bravo!
Mais écoutez, ça fait plaisir, puis effectivement, c'est toujours un plaisir pour nous de prendre ce temps-là. Vous l'avez mentionné, ce sont des bénévoles hein, qui rendent possible cette clinique juridique téléphonique-là.
Oui.
Bon, j'ai pas regardé la météo, mais c'est vrai que la fin de semaine, habituellement, on se repose, mais ce ne sera pas le cas pour nos bénévoles ce samedi.
Maître, pareil, selon Météo Média, on aura une belle fin de semaine.
Ouais, mais on sera quand même au poste. Oui. On sera quand même au poste.
Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous avez pu réunir tous vos bénévoles jusqu'à présent?
Oui. Oui, alors nos bénévoles sont tous prêts.
Oui.
Et puis vous l'avez mentionné, hein, c'est la 39e édition et cette édition-ci, elle est spéciale puisque l'ensemble de nos bénévoles reviennent physiquement sur place dans nos locaux.
Oui.
En fait, dans les locaux du Centre d'accès à l'information juridique. Depuis la pandémie, la clinique se tenait à distance. Donc
oui.
Pour nous, c'est très spécial de revenir tout le monde ensemble. Mmh. On parle d'environ 45, 50 jusqu'à 60 bénévoles qui seront disponibles en fin de semaine pour répondre, et vous l'avez mentionné, à l'ensemble des Québécois. Hein. C'est pas seulement à Montréal. C'est
Non. Le Québec s'arrête pas à Montréal.
Voilà.
Oui, c'est dans tous les petits coins, tous les petits recoins du Québec. Voilà. Comment est-ce que vous vous arrangez? Comment vous faites même pour motiver les plus de 5000 membres de cet organisme à but non lucratif chaque année comme ça? Comment vous arrivez à les motiver?
au Jeune Barreau de Montréal, on a deux missions et la première, c'est de promouvoir l'accès à la justice. Donc, j'ai l'impression que cette mission-là, elle rejoint beaucoup de nos membres, ce qui fait en sorte que ces gens-là, ces bénévoles-là reviennent d'année en année s'impliquer pour redonner concrètement à des citoyens. Pour nous, c'est important de faire une différence et de redonner à la société. Et donc, de répondre comme ça gratuitement au téléphone en donnant des conseils juridiques gratuits, c'est une manière de redonner finalement.
Oui. Quelle est sa première mission, le jeune barreau de Montréal?
Bon, en fait, il y a celle que j'ai mentionnée. La deuxième, c'est de promouvoir l'intérêt de nos membres, donc nos 5000 membres. Évidemment, c'est une association, donc on met de l'avant l'intérêt de nos 5000 membres.
Oui.
Mais elle est égale avec celle de promouvoir l'accès à la justice.
C'est ça, améliorer l'accessibilité à la justice en fournissant des services de consultation et d'information juridique de façon bénévole. J'ai dit, mais oui, les avocats travaillent comme ça en fin de semaine de manière bénévole. Je dis bravo, parce que là, vraiment... Et puis, vous n'avez jamais eu de problème comme ça chaque année, bon, la motivation est là. Tout le monde veut donner quelque chose à la population.
Ce qui est merveilleux aussi, c'est que nos bénévoles proviennent de plusieurs différents en fait domaines de droit. Donc, n'importe quelle question est la bienvenue, que ce soit une question en droit familial pour savoir quels sont mes droits par rapport à mes enfants alors que je viens de me séparer, de me divorcer, quels sont mes droits en tant que locataire. Si j'ai un problème avec mon locataire, mon propriétaire de mon logement, je veux savoir c'est quoi mes recours. Donc, ce genre de questions-là peut être répondues. Mmh. Ça peut être aussi, vous avez reçu une contravention ou vous devez comparaître pour une infraction criminelle. Il y a des avocats aussi en droit criminel qui seront présents. Et vraiment, disons, vous avez un trouble de voisinage, mais vous pouvez appeler aussi pour poser votre question.
Mm-hmm.
Et nous, en fait, la seule contrainte qu'on a, c'est que la question doit être juridique. C'est la seule contrainte. Si elle n'est pas juridique, nos avocats bénévoles vont pouvoir référer la personne vers un autre service, mais vraiment, tous les domaines confondus peuvent être répondus.
Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut en tant qu'avocat pour être membre du Jeune Barreau de Montréal? Combien d'années d'ancienneté?
En fait, le jeune barreau de Montréal représente tous les avocats de la section de Montréal de 10 ans et moins de pratique.
Oui.
Mais sachez par contre que les gens, les avocats aiment tellement redonner à la société qu'il y a des gens qui ne sont plus membres du jeune barreau de Montréal qui viennent
qui
quand même.
Qui reviennent quand même répondre. Oui. Ah, oh, wow!
On leur dit
merci du fond du cœur. Voilà.
Oui,
wow.
Nous aussi.
Non, vraiment, chaque fois que je vois ça passer, j'ai dit, wow, c'est la 39e édition. Wow! Mm-hmm. Est-ce que vous faites un sondage après l'événement pour savoir si les gens qui vous ont appelé ont été satisfaits? Est-ce que ça arrive que vous arrivez à vous demander, est-ce qu'on a pu répondre aux questions normalement? Vous posez des questions vous-même?
Ben, c'est-à-dire, généralement, on ne va pas raccrocher avant de savoir que la question a été répondue, ça c'est
oui,
clair.
Oui.
Parce que une fois que, comment ça fonctionne, c'est que les gens appellent à notre numéro et doivent d'abord parler avec un réceptionniste qui, lui, va qualifier la question en fonction du domaine de droit. Mm-hmm. Par la suite, il sera redirigé vers une deuxième personne, donc l'avocat, et cet avocat-là va prendre le temps de bien cerner la question et d'y répondre en détail, de sorte que normalement, à la fin de l'appel, la question, elle a été répondue. Donc, pour savoir si les gens sont satisfaits, je vous dirais que pas besoin de faire de sondage puisque la question, normalement, elle est répondue. Sinon, l'appel continuerait plus longtemps pour s'assurer que le citoyen est satisfait ou du moins a réponse à sa question.
Oui. Ça a été fondé en 1898.
Le jeune barreau de Montréal, oui, oui.
Ouais. Vous et moi, on n'était pas nés, hein?
Non. Même additionné, je vous garantis.
Ouais. 1880, quand j'ai vu ça, j'ai dit 1898, c'était même pas...
Non, ça fait un petit bout, l'Internet ne fonctionnait pas.
Ouais. Et je vous dis bravo pour votre... Vous avez reçu en août 2021 la médaille du lieutenant du gouverneur pour le mérite exceptionnel en reconnaissance du dynamisme remarquable dont vos preuves, vos membres dans la poursuite continuelle du mieux-être collectif.
Oui.
Bravo. Comment vous avez réagi quand vous avez reçu ça l'année passée? Comment les membres ont réagi? Comment vous avez dit? Oh, on est reconnus, hein?
Ben oui, et puis c'est sûr que on fait pas ça pour recevoir des prix ou des
Ah non, c'est pas le but,
Ça, mais c'est sûr que de savoir que notre travail et nos efforts sont reconnus, les efforts soutenus, hein, parce qu'on parle de 39e édition, c'est plusieurs années aussi, et la clinique juridique téléphonique, c'est pas le seul service que le jeune barreau de Montréal offre, pratiquement. Mm-hmm. On a plusieurs autres services, d'ailleurs j'invite vos auditeurs à aller visiter notre site web pour aller voir les autres services, parce que là, en ce moment, on fait la promotion de la clinique juridique puisqu'elle est ponctuelle mois d'octobre et mois d'avril, mais tout au long de l'année, on a d'autres services, que ce soit des services de préparation à une audition.
Oui.
On a même des avocats qui sont sur place à la Cour municipale de Montréal en matière criminelle. Donc, j'en ai nommé deux, mais il y en a d'autres aussi. Donc, cette reconnaissance-là, de cette médaille-là, pour nous, c'était juste des encouragements supplémentaires à continuer, hein, parce que notre mission, on y croit, puis nos membres y croient aussi. Donc, c'était très agréable de recevoir cette distinction-là.
Oui, ça doit être tout un plaisir de retrouver vos membres pour cette période du 20 et 21 là, en présentiel, mais l'année passée, ça s'est passé autrement. Pandémie oblige.
Voilà, donc les gens étaient tous à distance, répondaient du confort de leur maison, de leur salon durant la fin de semaine, mais je vous dirais que de travailler la fin de semaine comme ça, c'est mieux de le faire en tout le monde ensemble dans les locaux, donc on est bien contents de se retrouver.
Vous avez déjà tous testé tous les appareils téléphoniques, tout marche bien.
tout fonctionne, la ligne fonctionne, tout le monde est prêt.
Alors, un dernier mot avant de vous laisser partir pour aller continuer les préparatifs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'abord des appels téléphoniques gratuits, ça il faut le dire.
Oui.
Ils vont recevoir des conseils légaux de professionnels, des avocats qui prennent leur temps, qui sont membres du jeune barreau de Montréal, et puis comme vous l'avez mentionné, même ceux qui ne font plus, qui ont déjà pris leur retraite, mais qui aiment donner aussi à la communauté, reviennent ces deux journées-là aussi pour prendre part à cet événement gratuit, cette clinique juridique téléphonique du jeune barreau de Montréal. Un dernier mot à ceux qui nous écoutent, qui voilà. Et puis le numéro de téléphone, s'il vous plaît.
C'est ce que j'allais dire. Donc, le 1-844-779-7777. 6-2-3-2, puis j'en profite pour remercier le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique qui sont nos deux partenaires qui nous permettent de réaliser cette clinique juridique-là d'édition en édition. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, Maître Alexandra Paquette. Et puis bon, ben, bonne clinique téléphonique juridique.
Merci. Merci, bonne journée.
Merci. Alors, vous avez entendu, ça va être cette fin de semaine, effectivement. Cette fin de semaine, ça va être le 22 octobre, de 9h à 16h. Et je redonne le numéro de téléphone, c'est le 1-844-779-6232. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements, n'hésitez pas d'aller sur le site. Je vais donner l'adresse, le lien du site tout de suite. Je suis en train de chercher, j'ai trouvé, c'est AJBA comme Antoine, J comme Jules ou bien Juin, B comme Benoît, M comme Maman, .qc.ca. Vous allez avoir toutes les informations. Et puis ça se passe deux fois dans l'année, hein, c'est pas une seule fois. Donc c'est toujours deux journées comme ça, de 9h à 16h, que les membres du Jeune Barreau de Montréal, voilà, se sont à l'écoute au téléphone de 9h à 16h pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le plan civil ou criminel, comme elle a dit la présidente Maître Alexandra Paquette. N'hésitez pas, prenez votre temps. Ils prennent aussi leur temps pour vous répondre. Préparez vos questionnaires. Ce n'est pas lorsque vous allez vous retrouver au téléphone avec les avocats que vous allez commencer à penser aux questions. Non, non, non. Préparez vos questionnaires. Si vous avez des litiges, tout ça, tout est... ils répondent à toutes les questions. Ne vous gênez pas. Vous n'avez rien à payer. C'est gratuit. Ça vous permettra de... quand vous allez raccrocher pour dire « oui, j'ai les réponses à mes questions », voilà les démarches que j'ai à entreprendre pour faire face au problème que j'ai actuellement. Alors, si c'est un problème de rénoviction, ouais, pourquoi pas. Si c'est un problème de d'achat de voiture et ils ont mis des frais supplémentaires là-dessus, voilà, parce que ça arrive, les concessionnaires, les vendeurs de véhicules, je ne dis pas eux tous, mais quelques-uns, ils le font. Des 100$ de plus, 300$ de plus, 1000$ de plus, surtout quand on veut payer cash. Voilà. Voilà, je reviendrai là-dessus demain d'ailleurs. Mais restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. Là, je vais recevoir Clément Turgeon, qui est le directeur général et artistique de l'événement Le Festif de Baie-Saint-Paul. Ouais, c'est dans le cadre de Le Festif à l'école.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie, la dernière de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, avant que mon invité ne soit joignable, je vais essayer. Je rappelle, il y a Rebecca Jean que j'avais reçu en entrevue dernièrement. Son avant-dernier spectacle de l'année 2022, c'est aujourd'hui à 19h30 à la Maison de la Culture Marie Huguet. Et ça se passe au 6052 boulevard Monk à Montréal. Avec Atsansek, oui, Atsansek à la guitare et Moïse Yao Maté à la percussion, Yoel Diaz au clavier. Allez-y, téléphonez d'abord pour les laisser passer, ça c'est clair, c'est ce qui est dit. Et puis, à la Maison de la Culture. Allez, Marie, Huguet, point, tuxedobillet.com. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est ce soir à 19h30. Et puis le samedi, elle aura le tout dernier spectacle de l'année, bien sûr. Voilà, avant de revenir sur les scènes, les différentes scènes en 2023, bien sûr. Et je lui souhaite, bon, ce soir je ne pourrai pas y être, mais samedi, je revois son spectacle. Je reviendrai sur ça demain pour le spectacle de samedi. Alors, avant que mon invité ne revienne, je vais parler de quelque chose d'autre, de littérature cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire découvrir trois des 10 œuvres incontournables retenues par le jury du Grand Prix du Livre de Montréal. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, bien sûr. Voilà, la revue Estuaire a annoncé la parution des 7 proses sur la poésie de Daniel Cranty. Il s'agit d'une édition revue et augmentée d'inédit de la version publiée en feuilleton par la revue de 2017 à 2019. C'est la première fois qu'Estuaire, qui fête cette année, c'est son 45e anniversaire. se soumet à la publication d'un livre depuis des décennies. Donc l'ouvrage Prose sur la poésie, c'est bien ça, cette prose sur la poésie, Daniel Kanti, éditeur Estuaire, c'est bien ça. L'ouvrage propose un parcours en sept champs de ce que peut être la poésie. Daniel Kanti, il nous a habitués aux œuvres inclassables, habitués par une intelligence du cœur. Et puis il y a Michael Delin, qui est une pensée du possible. Il y a dans l'écriture de ses prouves aussi quelque chose de l'essai, bon, du roman, de la poésie elle-même. Et puis, ici abordé comme une qualité de la lumière, l'auteur est convaincu que la substance même du monde est poétique. Je parle bien de Daniel Kanti. Voilà. Daniel Kanti. Poétique. La substance. La substance même du monde est poétique. Voilà. Les rencontres qu'elles induisent nous font entrer dans un tissu scintillant de correspondance où les approches de la poésie font écho à des propos sur la connaissance des arbres ou la communication extraterrestre, à des méditations sur la nature du temps et les objets impossibles de la physique, à des considérations sur la solitude du Yeti, l'accès au monde des morts, les habitations terrestres des poètes, les relations entre la spéculation financière et la nécromancie. Voilà. Et puis la poésie transgenre des donjons et puis dragons et autres. La prose de Kanti, sa force permet que sous le texte, comme sous l'humus de nos forêts, se tisse un réseau signifiant. Une trame qui nourrit la mise en relation des différents sujets abordés. Peut-être est-ce exactement ça la poésie? C'est la question qu'on se pose. Je ne sais pas si il n'est pas encore joignable. Voilà, ça c'est. Daniel Kanti, il est écrivain et artiste aussi. Il élabore depuis la fin du XXe siècle une œuvre où l'écriture se prête à toutes les métamorphoses. Son dernier livre, La Société des Grands Fonds, une exploration des rapports flottants entre la littérature, l'eau et la mémoire, a été finaliste au Grand Prix du Livre de Montréal et au Prix littéraire du gouverneur général. Voilà, c'est intéressant tout ça, oui. Et puis quoi encore? Il y a un autre... Alain Farah, 1000 secrets, 1000 dangers, éditeur. Éditeur, c'est le Cartanier, paru en septembre 2021. Voilà. Alain épouse Virginie à la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. En apparence, ce sera plus beau au jour de sa vie, de leur vie. Ouais. Tout le monde est là. Les parents de la mariée, la grande amie, les parents du narrateur, Libanais d'Égypte immigré au Québec il y a 30 ans. Divorcé depuis 20 ans, qui ne se parle plus depuis 10 ans. Voilà, mais à l'approche de la célébration, Alain va plus mal que jamais. Les insomnies sont de retour, l'angoisse et la maladie aussi. Et aujourd'hui, son cousin Édouard, son garçon d'honneur, son frère, perd-pied, emporté par la mécanique folle d'un déni aux proportions bibliques. Alain prie pour que le sort les épargne, pour que ce grand jour en soit un. De fête et de guérison. Voilà. Oh, un nom ressurgi au détour d'une phrase. Un nom maudit remonté au fond de sa mémoire. Oui, là où glissent la honte et la douleur des années sombres. Un nom que rejoint bientôt une voix, un corps, une histoire. Un fantôme se fait chair, qui a plusieurs visages. Et tout ce qu'on a voulu oublier, tout ce qu'on a refusé de voir, c'est tout ce qu'on a détesté, vient réclamer son dû. Comme on fait son lit, on se couche. Car la vie, Yalin, est un piège qui sommeille dans la prison du temps. Ouais. Oui, la vie. Il y a Ebni, souviens-t'en. Ouais. Ne dure pas. Quelques joies, de grandes peines, 1000 secrets, 1000 dangers. Ouais, il est né où? Il est né à Montréal. Hein. De parents libanais d'Égypte, Alain Farah est écrivain, professeur de littérature à l'Université McGill et chroniqueur à plus. Plus on est fou, plus on lit, il disait à l'époque. Ouais. Et puis, il a livré plus d'une centaine de chroniques depuis 2011. Au Cartanier, la maison d'édition, il a publié Quelque chose se détache du port en 2004 et Matamor, numéro 29, 2008 et Pourquoi Bologne, 2013. Il est également l'auteur d'un roman graphique, La ligne la plus sombre, en collaboration avec Mélanie Bayerger, paru à la Pastèque en 2016. Il a signé l'adaptation théâtrale du déclin de l'Empire américain de Denis Hacan, produite par le théâtre Pape dans une mise en scène de Patrice Dubois créée le 28 février 2017 et dont il y a à peu près 80 représentations. Voilà. Je continue. Un autre. Voilà. Dis merci. Paré-Poirier. Camille Paré-Poirier, éditeur Ta Mère. Voilà, je ne connaissais pas cette maison d'édition. Oui, 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 ta maman, ta mère.
L'édition de ta mère,
oui. Oui, oui. C'est paru le 7 septembre 2021. Voilà, c'est comme ça. Ouais. À l'école, tu es cette fille. Bon. À l'école, tu es cette fille. Ta prof d'histoire, ton prof de maths, ton prof d'anglais, ta prof de musique, tes amis, ton kick. Tout le monde s'étonne que tu ne sois pas morte. Tu ne sais pas quoi leur répondre. À 12 ans, on découvre Camille une tumeur à la moelle épinière. Elle entre alors dans un univers médical opaque et absurde, harnachée à ses parents qui souffrent avec elle, à un âge où elle devrait apprendre à s'éloigner d'eux, plutôt que d'aller magasiner dans la section Twic du Simons, comme les autres filles. Elle assistera impuissante à la transformation de son corps, espérant littéralement survivre à la puberté. Je vous reviendrai la semaine prochaine, mais peut-être demain aussi, avec d'autres titres de ces œuvres incontournables qui n'ont pas le jury du grand livre du grand prix du livre de Montréal 2022. Alors, je vais vous donner trois comme ça. Je pense bien que ça suffit. On va en musique.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road. Man make the trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen. About little bitty baby girls and baby boys. Man makes them happy, 'cause man, he makes them toys. And after man has made everything he can, money to buy from other men. But this is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Lost in the world of a man. Oh yeah. And he's lost in bitterness. This is a man's world. Oh yeah. This is a man's world. Thank you.
Nothing without a woman or a girl. This is a man's world. This is a man. This is a man's world. I know and you know this is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl.
Là, on vient d'écouter Etta James, It's a Man's World. Enfin, mon invité est joignable. On va continuer à parler de cet événement qui va avoir lieu. Bonjour, Clément Turgeon, directeur général et artistique de voilà, le festif de Baie-Saint-Paul. C'est dans le cadre de Festif à l'école qui a commencé déjà de octobre 2022 à avril 2023.
Oui.
Comment
oui,
vont les préparatifs? Ça a déjà démarré. Et, comment ça se passe déjà?
Oui, ben ça va super bien. Écoute, comme tu dis, c'est déjà parti, même que là, on revient tout juste d'une tournée dans le Bas-Saint-Laurent avec le groupe À la Claire Ensemble. Donc, c'est une belle aventure, une belle tournée scolaire là qui va nous mener dans une cinquantaine d'écoles un peu partout au Québec.
C'est ça. Avant d'arriver là, je vais vous demander, pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est que le festif de Baie-Saint-Paul?
Écoute, le festif, c'est un...
C'est vous qui l'avez, vous êtes le directeur général et artistique, vous êtes, c'est vous qui êtes derrière tout ce beau travail. Et comment l'idée vous est venue? C'est quoi le festif de Baie-Saint-Paul?
Oui, ben dans le fond, le festif, c'est un organisme à la base, puis on a mis sur pied le festif de Baie-Saint-Paul, qui est un festival de musique qui se déroule, comme on le dit, à Baie-Saint-Paul. Donc, ça a été la 13e édition, ça va vers notre 14e. Puis moi, j'ai parti ça, j'avais 21 ans à l'époque. Là,
tout jeune, là, oui.
Oui, exact, je rentrais à l'université, puis j'ai finalement abandonné l'université pour partir à ce festival-là sur un coup de tête. Puis ben là, ça fait maintenant 14 ans, l'événement est rendu assez gros. Là, on a à peu près 125 spectacles.
Félicitations.
Ben, merci beaucoup. Donc, c'est une grosse affaire, puis ça, ben le Festival École, c'est un peu notre projet plus social, donc on offre des spectacles et des ateliers aux jeunes un petit peu partout.
Oui. Ça pouvait être aussi le festival à l'hôpital. Le festif à l'hôpital.
Oui.
Mmh. Pourquoi vous avez choisi les écoles?
On voulait un peu, tu sais, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait très fort sur le festif, sur l'expansion du festif, puis on voulait un peu revenir vers notre communauté. Donc au début, c'était vraiment pour offrir un projet pour Baie-Saint-Paul, pour notre ville. Puis on s'est dit, ben tu sais, tournons-nous vers les jeunes. Mm-hmm. Je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes à l'importance d'écouter de la musique d'ici, de la musique du Québec. Donc c'était ça l'objectif. Puis il y a tellement eu d'intérêt que de fil en aiguille, ben, on a rajouté des écoles, puis on est dans à peu près 55 écoles.
Mm-hmm. Et comment ces écoles ont été sélectionnées?
Nous, on a fait un appel d'inscription, donc il y a quelques mois, donc les écoles pouvaient s'inscrire, il y avait un formulaire.
Oui.
Nous, après, on choisissait dans les écoles ceux qui pour nous faisaient le plus de sens dans les itinéraires et tout ça, puis c'est comme ça qu'on l'a constitué. Puis on a une cinquantaine d'écoles, mais on a eu 280 inscriptions. Donc si on avait le budget ou les subventions gouvernementales, on pourrait se rendre à 280 écoles.
Attention, vous n'êtes pas soutenu par les différents organismes gouvernementaux parce que ça fait 14 ans d'existence quand même.
Oui, ben tu sais, on a pour le festival, on a beaucoup de financement. Pour le projet scolaire, on réussit à trouver du financement, mais on n'est jamais capable d'avoir un financement donc qui revient à chaque année. Donc à chaque fois, il faut trouver une manière de financer l'événement. Fait que c'est pas évident. On peut comme pas voir voir à long terme. Faut toujours réussir à trouver du financement chaque année.
OK. Donc, j'espère avec les années, vous allez trouver écho quelque part, ou bien les Samaritains qui vont vous dire, c'est très beau ce qu'ils font, les jeunes gens, et puis, voilà.
J'espère bien.
Mm-hmm. Alors, ce que j'ai ça, c'est ce festif de Baie-Saint-Paul qui est devenu un rassemblement incontournable de la scène musicale québécoise dans l'engagement local, l'écho. Voilà, ça m'a beaucoup impressionné. Quelle est cette histoire d'éco-responsabilité en liaison avec le festif?
Oui, ben tu sais, nous, on voulait... On voulait trouver une manière où on trouvait, tu sais, un festivalier souvent va consommer plus, va un peu plus polluer, il va avoir un impact.
Non, vous pouvez le dire tranquillement, ça pollue quand les festivals, ça, oui, c'est vrai, on jette les...
Effectivement.
Voilà.
Effectivement, quelqu'un
n'ayez pas peur de le dire, ça pollue.
Ben, exact. Mm-hmm. Fait que nous, on s'est dit comment faire pour avoir un moins gros impact, donc on s'est mis à réfléchir comment moins consommer, faire moins de déchets, tout ça, donc on s'est mis à enlever les verres à usage unique en mettant des verres récupérables, en éliminant les bouteilles d'eau en plastique, on récupère les mégots de cigarettes, on fait plus de marchandises comme telles textiles pour pas trop produire, on fait affaire avec des fournisseurs locaux, donc tout l'alcool, la bouffe, donc festif, tout vient des producteurs d'ici, donc on fait un gros effort dans les loges, tu sais, les fameux sandwichs pas de croûte dans des emballages en plastique, ben nous, ça n'existe pas. C'est vraiment de la nourriture en vrac. Donc, il n'y a pas d'emballage non plus usagé. On travaille bien fort là-dessus. Ouais.
Intéressant. Et comment vous avez réussi à convaincre ces 15 artistes-là qui vont prendre part à cet événement jusqu'en avril 2023?
Ben nous, c'est sûr, au fil du temps, en faisant le festival, on s'est lié d'amitié avec des artistes, avec des agents. Donc, on partait pas de zéro, donc c'est tous des artistes qui connaissent l'événement et qui nous font confiance. Puis pour les artistes aussi, c'est important de renouveler la clientèle, finalement, d'aller vers les jeunes, d'aller dans les écoles, de sensibiliser les jeunes à écouter, regarder la belle musique qu'il y a au Québec. On vous encourage à en écouter, tout ça. Donc, c'est pas que c'était un no-brainer, mais les artistes acceptaient quand même facilement l'invitation.
Ouais. Intéressant, ça va se passer. 15 artistes qui vont se produire dans 11 régions différentes du Québec. L'Estrie, le Bassin-Laurent, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, la Mauricie, Saguenay-Saint-Jean, la Gaspésie, Québec, Charlevoix, la Naudière et les Laurentides. Mais est-ce que l'artiste avait le droit de faire son choix ou bien c'est vous qui lui fait faire le choix? vous faites le choix pour lui, voilà.
C'est un mélange des deux un peu, dans le fond. Tu sais, il y a des artistes qui disaient, je suis en tournée, par exemple, dans l'Estrie, donc je pourrais rester quelques jours de plus faire la tournée. Okay. Donc on essayait que ça marche avec les tournées.
Que ça tombe avec sa tournée, quoi, voilà.
Ben exact, puis j'avoue, tu sais, pour les tournées dans Charlevoix, comme c'est notre siège social un peu, Charlevoix, Baie-Saint-Paul, on essayait un peu plus de choisir parce qu'on connaît un petit peu plus la cliente, tu sais, les jeunes d'ici, donc on contrôle un peu plus les artistes dans Charlevoix, mais sinon, on s'arrangeait vraiment avec le calendrier de tournée de ces artistes-là.
Oui. Quel est le conseil que vous avez à donner aux artistes qui nous écoutent, qui aimeraient prendre part au prochain? À la prochaine saison, parce que là, c'est fini, les inscriptions, tout ça, là, c'est fini, ou bien vous avez déjà booké pour cette année. Comment les artistes qui aimeraient, ou bien les écoles qui aimeraient bien prendre part à l'année prochaine, comment ils doivent se comporter? D'abord les artistes et puis les écoles.
Oui, mais dans le fond, déjà, tu sais, peut-être dire pour les écoles, s'il y en a qui nous écoutent, qui se demandent comment s'inscrire, dans le fond, nous, il n'y a pas de format d'inscription encore. Le mieux, c'est vraiment de suivre notre page Facebook, Le Festif. On va lancer les inscriptions au printemps. Sinon, c'est lefestif.ca.
Oui.
C'est une section Festif à l'école.
Oh oui, la page, le lien, c'est lefestif.ca. Un seul mot, Le Festif.
Exact. Puis, tu sais, comme vous dites, enfin, on voulait dire comment les artistes doivent se préparer pour le Festif à l'école.
Oui,
ben dans le fond, tu sais, on demande aux artistes, finalement, d'être eux-mêmes. Tu sais, souvent, les artistes qu'on choisit, c'est des artistes qu'on pense qui sont pertinents pour les jeunes. On essaie aussi de leur montrer autre chose que juste les artistes qui passent beaucoup à la radio et tout ça. Il y en a, mais on essaie de leur montrer des artistes au profil inspirant et tout ça. Tu sais, puis on dit toujours aux artistes d'être naturels puis de porter un message un peu d'espoir puis de dire lâchez pas si vous avez des passions et tout ça, suivez-les, moi. Tu sais, puis souvent, c'est des artistes-là, c'est tous les artistes qui ont été des jeunes, qui avaient des passions, des rêves de devenir musicien. Donc, on demande toujours aux artistes de vraiment communiquer cette passion-là et tout ça. S'il y a des artistes qui ont envie, justement, de participer au Festival École, dans le fond, ils peuvent aussi nous contacter là au info@lefestif.ca. On a toujours une quinzaine d'artistes, on essaie de renouveler notre banque à chaque année.
Merci beaucoup, Clément Turgeon, directeur général et artistique. Et bon vent à cet événement qui va jusqu'en avril 2023. Et je vais le répéter, corrigez-moi si je me trompe, Clément, c'est les spectacles sont gratuits.
Oui, tout à fait. Bon. Effectivement, dans le fond, puis, tu sais, les spectacles sont vraiment seulement pour les jeunes, évidemment.
C'est ça, c'est bon. Ça. Mmh. Ouais, les parents d'élèves n'ont rien à payer, ça c'est clair, c'est pour les jeunes.
Non, tout à fait.
Merci beaucoup à vous, et puis bon vent jusqu'en avril 2023, et au plaisir de vous réentendre.
Ben, merci beaucoup.
Avec plaisir. Alors, je dis merci à Myriam Larrache qui avait nous donné les dernières nouvelles sportives et à mon invité, Maître Alexandre Paquette, la présidente du Jeune Barreau de Montréal pour la clinique juridique téléphonique 22-23, fin de semaine, de 9h à 16h. Voilà, n'oubliez pas. Et puis, je dis merci à mon invité avec qui je viens de finir, Clément Tujon, directeur général et artistique de Festif, le Festif à l'école, qui a commencé déjà d'octobre 2022 à avril 2023. Oui, c'est ça. Dans 50 écoles québécoises, avec 15 artistes retenus. Voilà. Et puis, les spectacles pour les enfants, pour les jeunes, tout est gratuit. Ne vous en faites pas. Mathieu Tessier, merci à toi.
Ça fait plaisir.
On se voit demain?
Demain, non.
Non, on se voit lundi. Merci Mathieu. Merci à nos fidèles auditeurs et puis qui a booké cette histoire de festif à l'école, c'est Catherine Bourduron, la recherchiste de l'équipe de Escale 16-17. Bon ben, je lui dis merci aussi. Elle m'a fait découvrir un livre. Le papillon de Callisto, c'est elle qui m'a... elle m'a forcé de... voilà, ça s'est bien passé hier avec l'auteur d'ailleurs. Hein? Prenez soin de vous, n'hésitez pas. Alors, tendre la main aux autres qui en ont besoin. Qui on écoute, Mathieu? Il y a Brian Cabelson au piano et à la voix, Noël Gourdin. Ouais. Laissez-vous aller. Prenez soin de vous, belle soirée. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal. Mathieu, on se retrouve lundi. Hein. Merci à toi.
I will never ever stop till you're satisfied. Just open up and sing it to me loud and clear. Oh, this is real, no need to pretend. And I hope this will never end. Cause you're the only melody in my life. Cause every time I think of you, perfect as you are. I could say you're a star, but you are so far beyond.